Chapitre 5. 12 jours avaient passé depuis l'arrivée de Lorenzo et le jeune homme ne parlait pas de quitter Treillac. Il avait dit à Mademoiselle Ambert, à Madame Clémentier, « J'ai une situation en vue, mais je ne pourrai l'occuper que dans quelque temps. » Il n'avait d'ailleurs pas spécifié laquelle. En attendant, il faisait de longues promenades à travers la campagne et le reste du temps se tenait dans le bureau, occupé à lire, à écrire des lettres. Celles-ci ne passaient jamais par la poste de Treillac. Une fois par semaine, Lorenzo se rendait à Sainte, les jetait à la boîte et allait recevoir poste restante un volumineux courrier. Cela, d'ailleurs, était ignoré de tous à Treillac. Le jeune homme ne soufflait mot d'aucune relation au dehors, pas plus qu'il ne parlait jamais du temps passé par lui à l'étranger. Madame d'Emplaine confiait volontiers ses inquiétudes à M. Barbelier, dont elle avait vite remarqué la malveillance à l'égard de son beau-fils. « Il a dû faire de vilaines affaires. C'est louche, très louche, ce silence. Et bien qu'il prétende me payer chaque semaine le prix de ses repas, je crains fort de ne pas voir de longtemps son argent. Cet être-là est capable de se faire nourrir pour rien, sachant qu'il me tient par la maison. » M. Barbelier hochait la tête. « Je l'ai toujours dit, ce garçon ne pouvait devenir qu'un fainéant. Mais pourvu, en effet, qu'il ne soit pas pire que tout cela. Oui, méfiez-vous, Charlotte, méfiez-vous des tours qu'il peut vous jouer. Très dangereux, ce Lorenzo. Il ferait un aventurier de haut style. Peut-être a-t-il cette ambition. Ah, ma pauvre cousine, je vous plains vraiment de ne pouvoir mettre à la porte cet individu. Hélas, et je dois le ménager. Vous ne pouvez savoir à quel point. Ah, mon bon Adrien, j'en voudrais toujours à mon mari d'avoir donné la maison à ce fils dénaturé, à cet odieux Lorenzo. » De fait, Madame d'Emplaine vivait maintenant dans l'inquiétude. Depuis l'ultimatum de son beau-fils, elle faisait moins travailler Hélène et, en présence de Lorenzo, s'efforçait de lui parler d'une manière aimable. Pour lui, elle montrait un empressement mielleux dans l'espoir de l'amadouer. Mais elle se heurtait à une froideur hostile, dédaigneuse, qui ne désarmait pas. La rage au cœur, elle devait s'incliner devant les volontés de Lorenzo, qui agissait en maître dans cette demeure. Il lui fallait s'essayer à contenter les exigences qu'il semblait multiplier à plaisir. Comme elle le disait un jour avec colère à Madame Monceau, il n'y avait pas plus difficile que ce miséreux. Mais devant lui, elle grimaçait des sourires et guettait anxieusement un pli sur son front, une lueur de contrariété dans son regard, un froncement de ses sourcils. Jeannine, frémissante de fureur entrée, devait également subir avec une apparente bonne grâce les observations ironiques dont était prodigue son frère aîné sur sa toilette, ses allures, ses occupations. Moins rompue à l'hypocrisie que sa mère, elle ne pouvait toujours contenir les sursauts de son amour-propre blessé. Toutefois, elle y réussit mieux à partir du jour où il riposta avec son calme railleur. « Rien ne vous oblige à rester ici pour m'écouter. Mais tant que vous y serez, je ne me gênerai pas pour vous dire ma façon de penser. » Félix n'était plus qu'un petit garçon très sage sous le sévère et impérieux regard de son frère. Il se dédommageait ensuite en faisant choruse avec sa mère et sa sœur contre l'aventurier, ce malvêtu dont il avait honte. Lorenzo continuait imperturbablement sa petite série de visites. Chez Madame Loriot, on lui répondit que Madame n'y était pas, bien que ce fût le jour de ladite dame. Le soir, au dîner, Madame d'Emplaine, pour le mortifier sans en avoir l'air, eut soin de mentionner qu'elle et Jeannine y avaient pris le thé. Un second essai à la porte des Barbeliers aboutit au même résultat que la première fois. André Barbelier, qu'il rencontra un jour dans la rue, lui tourna le dos. Une autre fois, Émile Monceau, occupé à causer avec le député de l'endroit, feignit de ne pas le reconnaître. Il recevait ainsi de petites avanies qu'il semblait supporter avec la plus philosophique aisance et qu'il contait avec humour à Mademoiselle Ambert, toujours affectueusement accueillante, ou au ménage Héry, qui avait, dès le premier moment, conquis toute sa sympathie. « Vous avez raison, Georges est admirable, » déclara-t-il à Mademoiselle Madeleine. « Et quelle charmante créature que sa femme, si courageuse, si pleine de foi !» Elle doit beaucoup, moralement, à l'exemple et au conseil de son mari. Quand il l'épousa, elle était une jeune fille très mondaine, de piété assez superficielle. Mais il sut deviner le fond très riche que l'éducation avait laissé en friche. Dès les premiers temps de leur mariage, il s'occupa de le mettre en valeur. Maintenant, il ne forme qu'un cœur et qu'une âme. Oui, je m'en suis vite aperçu. Et quels enfants délicieux! Le petit Joseph m'a déjà en grande affection et ses sœurs me font des risettes continuelles. Mais quelle gêne on devine dans ce logis! Pourtant, ils sont résignés, presque gais même, cet infirme et cette jeune femme chargée d'un si lourd fardeau. Le contact de telles âmes repose vraiment des vilnies, des laideurs morales côtoyées par ailleurs. Je crois que ma cousine Hélène est de la même race. Sa nature fine, vibrante, pétrie de délicatesse et très aimante, possède aussi l'énergie, la foi courageuse que j'admire en Héry et sa femme. Mais la pauvre enfant souffre beaucoup près de ma belle-mère et de Jeannine. Vous devriez lui dire de venir me voir. Je ne pense pas que Madame d'Emplem l'en empêche. Lorenzo sourit avec quelque sarcasme. Non, elle ne l'en empêchera pas du moment où je le voudrai. Car je l'ai dompté, mon aimable belle-mère. Avec ces gens-là, quand on peut faire marcher l'intérêt, on obtient tout. Donc je vous enverrai Hélène, mademoiselle. Près de vous, elle trouvera son atmosphère naturelle et laissera parler son cœur, comme elle l'a fait avec moi quand elle a compris que ma sympathie lui était tout acquise. En rentrant au logis après sa visite à mademoiselle Madeleine, Lorenzo rencontra Hélène qui descendait, habillée pour sortir. Il demanda « Vous allez à l'église ?»« Oui, mon cousin. »« Ne m'appelez pas ainsi, dites Lorenzo, j'aime mieux cela. » Et venez un instant dans le bureau, j'ai à vous parler. » Elle le suivit, anxieuse et gênée. Depuis que Madame d'Emplem l'avait mise en garde contre lui, elle l'évitait le plus possible et avait réussi à ne pas se retrouver seule avec lui. Mais elle pressentait bien qu'il s'étonnerait de cette nouvelle attitude et lui en demanderait le motif un jour ou l'autre. Alors, que lui répondrait-elle? Certainement, il ne se contenterait pas d'une explication vague, ce Lorenzo autoritaire, perspicace, dont elle sentait si souvent sur elle le regard observateur. Quand elle fut devant lui dans le bureau, il posa sur son épaule une main ferme. « Qu'avez-vous donc, Hélène? Que vous a-t-on dit contre moi ?» Comme elle rougissait plus fort, en gardant le silence et en baissant un peu ses cils tremblants, il reprit avec un sourire d'ironie « Allons, je vous dispense de me répondre, car je devine fort bien en quel joli personnage j'ai été transformé par les soins de ma charitable belle-mère. La bonne âme n'a rien trouvé de mieux pour exciter votre défiance à mon égard. Malheureusement, elle a affaire à un homme un peu trop clairvoyant. D'ailleurs, elle me paiera cette perfidie avec le reste. Mais vous, Lénique, je veux que vous ayez confiance en moi. » Je veux que vous croyiez à mon très affectueux respect pour vous. » Il lui prenait la main et couvrait la jeune fille d'un profond regard dont la loyauté la frappa. « Ma petite Lénique, je sais que je vous demande une grande preuve de confiance, car il est bien vrai que vous ne me connaissez pas encore. Mais je vous montrerai bientôt que vous n'avez pas eu tort de me l'accorder. Dites, Lénique, que vous me croyez et que vous n'avez plus peur de moi. » Elle répondit, en lui laissant voir cette fois jusqu'au fond de ses beaux yeux émus. « Oh non, je n'ai plus peur, et je vous crois, oui, Lorenzo. » « Merci, petite cousine, vous prononcez délicieusement mon nom avec cette jolie voix si musicale. Il faudra me le dire souvent, car vous ne me fuirez plus maintenant. Vous viendrez travailler au jardin et nous causerons sans souci de Madame d'Emplem. » Oui, c'est convenu. » « Très bien. Puis j'ai une invitation à vous transmettre. Mademoiselle Lambert, à qui j'ai parlé de vous, désire que vous l'alliez voir. »« Oh, très volontiers. Elle paraît si bonne. »« Excellente. Vos deux natures s'entendront fort bien. Et elle vous dira, je l'espère, un peu moins de mal que Madame d'Emplem de ce pauvre Africain. » Il se mit à rire en ajoutant avec un éclair de raillerie dans le regard. « Celle-là ne m'a pas mis de côté comme Madame Loriot, qui considère avec le plus parfait dédain Ce pauvre air de filleul, revenu sans avoir réussi, et qu'on ne peut taper seulement de 20 francs pour les œuvres placées sous son auguste présidence. Peu, ça ne se regarde même pas, un être de cette sorte. Hélène dit, avec une surprise attristée, « Comment, elle a fait cela ?»« Mais oui, et je n'en suis pas étonnée, connaissant l'orgueil stupide et les vues intéressées de la dame en question. » Tenez, n'en parlons plus, car ces êtres-là me sont odieux. Quand vous reviendrez, venez me retrouver dans le jardin. Je vous raconterai l'histoire de mes amis Héry. Cela chassera un peu mes mauvaises pensées de colère. Oui, à tout à l'heure, Lorenzo. Elle ajouta, avec un regard doux et grave sur le visage un peu penché vers elle, je vais prier pour que vous pardonniez. C'est cela, priez pour moi, ma chère Hélène. Je suis resté croyant, mais j'ai oublié bien des préceptes évangéliques. Je vous permets de me les rappeler quelquefois, Lénique. » Elle le remercia d'un regard plein de joie. Il lui baisa les mains, comme l'autre jour, et elle s'en alla pour répandre devant Dieu son allégresse, car elle était maintenant délivrée de cette défiance, car elle était maintenant délivrée de cette défiance qui venait de la faire si profondément souffrir. La loyauté, le respect de Lorenzo, elle les avait vus dans ses yeux et y croyait de toute son âme. Et elle avait aussi compris qu'elle trouverait en lui l'ami le plus dévoué, en même temps qu'un puissant défenseur.